Bonjour, bonsoir, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Qui vous parle, Éric Domergue, vous donne la bienvenue à un nouveau programme en français de RAE, l'Argentine vers le monde. Avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés et Pedro Araos, responsables du web, et sous la direction de Adrien Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Tire en direct sur un plateau de télévision, gardien de prison ou policier pris en otage, école et magasin fermés. L'Équateur est plongé, selon son président, dans un conflit armé interne avec les gangs de narcotrafiquants qui a déjà fait cette semaine au moins 18 morts. Programme spécial avec le décryptage sur France 24 de Jean-Jacques Kourlianski, directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine pour la Fondation Jean Jaurès, et un reportage de Arte, Équateur en proie au narcotrafic.
L'Équateur est-il à un moment de bascule? Les images violentes s'enchaînent. La plus significative peut-être reste l'irruption de plusieurs hommes armés sur un plateau de télévision. Des gardiens de prison, des policiers ont été pris en otage, les écoles et certains magasins sont fermés. Les gangs liés au narcotrafic enchaînent les attaques. Le président a décrété l'état de guerre interne. Le pays déplore pour le moment au moins 10 morts. Éric Sanson, bonjour, vous êtes en direct de Quito, la capitale. Décrivez-nous la situation.
Le couvre-feu est terminé. Nous sommes sous couvre-feu depuis dimanche soir, de 11h du soir à 5h du matin. Donc les gens sont de retour dans la rue, mais beaucoup moins qu'hier ou avant-hier. Toutes les personnes qui peuvent faire du télétravail le font. Tous ceux qui ne peuvent pas faire de télétravail, qui sont sortis, mais on sent beaucoup moins de présence. Les magasins ouvrent plus tard, ferment plus tôt. Les gens sont tendus dans les bus. Il n'y a pas grand monde dans les bus. Donc on sent quand même cette tension qui provient du fait que les gangs criminels qui essayent de protéger la fuite de leurs deux leaders qui se sont évadés dimanche et lundi, ont jusqu'à présent attaqué un peu partout. Donc tout le monde se sent une cible potentielle. Donc ça provoque beaucoup de tensions à ce niveau-là.
Cela fait 5 ans hein, que l'Équateur, en tout cas plusieurs années, que l'Équateur est en proie aux gangs. Pourquoi cet emballement soudain?
Oui, ça a commencé même avant cela. L'Équateur a été pénétré d'abord insidieusement, et puis de plus en plus visiblement. Aujourd'hui, l'Équateur est un État narcotisé, ça tout le monde le reconnaît. Les narcos ont pénétré la justice, la politique, l'administration pénitentiaire. C'est pour cela d'ailleurs que les leaders des choneros et des lobos se sont évadés quand ils le voulaient par la grande porte. Donc c'est arrivé petit à petit, mais nous en sommes aujourd'hui à la situation. D'ailleurs, tiens, nous sommes comme la Colombie de l'époque de Pablo Escobar. Ça a commencé l'an dernier. Il y a eu quand même des choses qu'on n'avait pas vues avant. Par exemple, en août dernier, l'assassinat d'un candidat présidentiel peu avant le premier tour, ça n'était pas arrivé. D'autres candidats, des maires sont assassinés. On a été déclaré le triste record d'être le pays le plus violent d'Amérique latine l'an dernier, avec un taux de mort violente de 40 pour 100 000 habitants. C'est trois, quatre fois plus qu'il y a 3 ans. Donc, ça s'est accumulé. Mais là, je crois que le fait que tous les assassins, les tueurs à gages, les 6 tueurs à gages qui avaient été capturés, qui avaient assassiné le candidat présidentiel Fernando Villavicencio, ont été assassinés en prison. Donc les autorités n'ont pas pu empêcher qu'il soit tué en prison. Et là maintenant, l'évasion de l'ennemi public numéro 1 fait que les gens maintenant en ont vraiment assez. Et d'où un petit peu, je crois que le président Noboa a ressenti ça. Et il est un peu en train d'insister auprès de la population pour que soit adoptée une loi d'amnistie, pour que les militaires et les policiers qui tirent dans le cadre de la guerre interne qui vient d'être déclarée, eh bien, soit amnistiés. Donc il a demandé à la population de faire pression sur son député pour que le député vote la loi d'amnistie. C'est donc qu'il prévoit en fait des affrontements assez durs parce qu'il a donné l'ordre très net aux militaires de s'en prendre directement aux 22 gangs qui sont désormais classifiés comme des groupes terroristes, mais qui représentent des dizaines de milliers d'hommes en armes. Donc ils ont de la force, les gangs.
Notre invité Jean-Jacques Kourlianski, bonjour et merci
bonjour.
D'être sur France 24. Vous êtes directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine pour la Fondation Jean Jaurès. Quand on regarde ces images, ces mutineries, ces prises d'otages, ces incursions aussi à la télévision, on a le sentiment que les autorités là restent impuissantes, sont dépassées et même ont perdu un petit peu leur autorité.
Ça n'a rien d'extraordinaire. On est dans l'œil d'un cyclone. Le cyclone a démarré il y a déjà plusieurs années. On peut même donner comme date de départ, en gros 2016, l'accord de paix en Colombie entre les FARC et le gouvernement colombien qui a redistribué les cartes du trafic, de la production de stupéfiants en Colombie, qui est le pays voisin du nord de l'Équateur. Et donc c'est dans la région nord, dans la région autour de la ville, port d'Esmeraldas, que les problèmes ont commencé avec l'enlèvement de journalistes. Puis ensuite, ça s'est répandu. Et depuis quelques années, on a assisté à une dégradation, notamment avec une multiplication de mutineries, des facilités données à un certain nombre de détenus par des gardiens de prison complices, l'assassinat d'un certain nombre de responsables politiques, dont ça fait un certain bruit pendant la campagne électorale l'année dernière, l'un des candidats à l'élection présidentielle, 10 jours avant le premier tour, du 15 octobre. Et donc on a un pourrissement de la situation, mais qui s'est progressivement aggravé au point que l'Équateur est aujourd'hui numéro un dans les pays sur la liste de ceux où le taux d'homicide est le plus élevé en Amérique latine. 40 pour 100 000 habitants, 35 en Honduras et autour de 26 pour la Colombie, le Mexique et le Venezuela.
Mais vous n'y voyez pas ici, là, un emballement ?
Un emballement, si on veut. Si, quand on regarde les événements des deux derniers jours, on a l'impression effectivement que la situation a explosé. Mais en fait, c'est une progression lente qui est due à l'évolution du marché de la drogue en Amérique latine et dans le monde. On oublie que la drogue répond à des règles de l'économie de marché. L'Équateur est devenu un point stratégique, non pas un lieu de consommation, c'est un pays petit, mais un lieu de logistique, de blanchiment, etc., pour à la fois les cartels mexicains, en particulier le cartel de Sinaloa, dans le nord-ouest du Mexique, qui est lié au personnage qui a été arrêté récemment, le responsable d'un groupe local, des cartels des Balkans, notamment albanais, et le cartel du Golfe en Colombie, qui est l'un des gros exportateurs de drogue dans le monde, de coca.
Et ça s'est fait en quelques années, 2018-2023.
C'est une évolution
2023.
Qui s'est faite sur 4-5 ans.
Et qu'est-ce qui a manqué pour éviter cette situation ?
C'est très difficile pour un petit pays comme l'Équateur de faire face à une telle situation qui était totalement imprévue. L'Équateur, il y a 4-5 ans, était encore un lieu de destination touristique.
Oui, apprécié. On parlait même de havre de paix en Équateur.
De havre de paix dans la région, parce qu'effectivement, l'Équateur ne produit pas de coca. L'Équateur était éloigné de tous les trafics de stupéfiants. Bon, il y a les drogues chimiques qui sont arrivées, le fentanyl qui concurrence la coca aux États-Unis, donc le marché européen est devenu plus important. Et il se trouve que l'Équateur a une façade amazonienne tournée donc vers le Brésil et donc vers l'Atlantique, une façade pacifique avec beaucoup de ports, en particulier celui de Guayaquil, et c'est un pays dollarisé. Et donc les transactions sont beaucoup plus faciles dans la mesure où il n'y a pas de monnaie locale. Donc l'Équateur est tout naturellement devenu une plateforme avec un État, disons, désarmé, puisqu'il n'y avait rien qui, il y a 4-5 ans, laissait penser que la situation allait se dégrader comme elle l'est aujourd'hui.
Est-ce qu'on a une idée de savoir combien y a-t-il de membres parmi ces plusieurs gangs liés aux narcotrafiquants, et quelle est leur force, finalement, leur pouvoir aussi aujourd'hui de nuisance face à cette police équatorienne qui tente et qui a aujourd'hui plus de pouvoir puisque l'état d'urgence a été décrété ?
Alors bon, c'est très difficile, il n'y a pas d'INSEE dans les milieux délinquants. On estime que, par exemple, le groupe Lochone, le groupe de ce personnage qui a été à l'origine des derniers événements, pourrait regrouper 8000 délinquants. Donc il ne faut pas oublier que l'Équateur est un pays où il y a beaucoup d'inégalités, un pays relativement riche, mais aussi relativement pauvre, dans la mesure où les richesses sont mal distribuées. Donc il y a de la main-d'œuvre, entre guillemets, disponible pour les groupes délinquants. 5 ans. Et l'arme principale de ces groupes, ce ne sont pas des armes à feu ou des armes blanches, c'est l'argent. Ces délinquants arrosent les gardiens de prison, etc., pour avoir des facilités. Donc, deux gardiens de prison ont été arrêtés, qui, semble-t-il, avaient été achetés par ce groupe délinquant pour permettre l'évasion de Fito, donc le chef de groupe. Donc, décréter l'état d'urgence, décréter l'état de guerre, même de guerre intérieure, puisque c'est ce qu'a décrété le président, c'est quelque chose qui peut avoir un impact en matière de communication. Est-ce que cela sera suivi des faits? Le constat qu'on peut faire dans les dernières années, c'est que non. Notamment, dans la mesure où l'Équateur n'était pas un pays sensible au point de vue sécurité, les gouvernements précédents, avant le gouvernement actuel du président Noboa, qui a pris ses fonctions le 23 novembre dernier, avait plutôt coupé dans les budgets de l'intérieur, de la police, des armées. Et donc, le président actuel a décidé de suivre un modèle assez spectaculaire, le modèle du Salvador, du président Nayib Bukele, qui, avec une main très dure, effectivement a obtenu des résultats en matière de sécurité assez spectaculaires au Salvador, mais au prix de la détérioration du droit et des libertés.
Bella Sanchez et son mari Ivan Vargas vivent à Guayaquil, le plus grand port d'Équateur. Ces trois dernières années, cette cité côtière est devenue l'une des villes les plus dangereuses d'Amérique du Sud. Le couple se rend sur les tombes du père, du frère et du neveu de Bella, tous tués par les mafias de la drogue.
Nous continuerons à nous battre jusqu'à ce que l'assassin soit en prison. Il faut qu'il paye pour ses actes. Il y a beaucoup d'injustices.
Les avocats n'en veulent qu'à notre argent, c'est tout ce qui les intéresse.
Ton frère, ton neveu et maintenant notre fils en prison. Combien de temps ça va encore durer? Avant, dans cette ville, les gens se promenaient dehors jusqu'à 11h du soir ou minuit. Aujourd'hui, c'est une ville fantôme. Plus personne n'ose sortir, tout le monde a peur. Le pays entier a peur. Dès qu'on sort de chez soi, où qu'on aille, il faut être sur ses gardes, il faut rester vigilant et regarder attentivement autour de soi.
Il y a 3 ans, l'Équateur était encore l'un des pays les plus paisibles d'Amérique latine. Mais depuis, la violence a littéralement explosé. Ces 2 dernières années, Bella et sa famille ont traversé beaucoup de souffrances. Mais contrairement à la plupart des familles, ils n'ont plus peur de parler. Ils souhaitent raconter leur histoire.
Du jour au lendemain, tout a changé. La vie est devenue extrêmement dangereuse. Ce n'est plus possible de sortir. Tu ne peux même plus aller te promener au parc. Parce qu'à tout moment, tu peux recevoir une balle perdue. Des enfants innocents meurent. En fait, on ne peut plus rien faire.
Le père de Bella a été assassiné par un membre d'un gang de narcotrafiquants de son village.
Je pense que la justice de Dieu les punira avant que la loi ne les condamne. Ici, les lois ne servent à rien. Personne ne les respecte. Les gens s'en moquent.
Les bandes rivales n'hésitent pas à commettre leurs crimes en plein jour et en public. Ils filment, puis postent leurs vidéos sur TikTok et Instagram, avec pour objectif d'instaurer un climat de peur. C'est le trafic de drogue qui a fait exploser la violence dans le pays. L'Équateur est situé entre le Pérou et la Colombie, les deux plus importants pays producteurs de cocaïne au monde. Désormais, le trafic de drogue passe essentiellement par les ports équatoriens. Plusieurs gangs locaux et 2 cartels mexicains se disputent le marché et les itinéraires d'acheminement les plus rentables. Oscar Torres est membre d'une unité spéciale de la Brigade des stupéfiants de Guayaquil. Il patrouille régulièrement dans le port avec ses collègues.
C'est l'un des ports les plus importants du pays. Là, on va dans la zone de mouillage des navires en quarantaine. La drogue arrive sur les navires de plusieurs façons. Elle peut par exemple être cachée dans des conteneurs avant qu'ils ne soient chargés à bord. Cette opération a le plus souvent lieu dans l'enceinte même du port. Il arrive aussi que la drogue soit dissimulée à l'extérieur, sous la coque, ou dans des cavités qui peuvent servir de cachette. La criminalité liée à la drogue évolue en permanence. Les gangs cherchent constamment de nouveaux modes opératoires. Ça complique beaucoup notre travail.
L'interruption du trafic maritime mondial lors du Covid a provisoirement coupé les routes de la cocaïne. Mais une fois les voies maritimes rouvertes, le marché a été inondé de drogue. Sur la seule année 2022, la police a saisi 210 tonnes de drogue, un record. Mais les policiers estiment que pour chaque tonne interceptée, 8 autres tonnes quittent le pays. Victor Rodriguez est le chef de la police de Durán, le quartier le plus meurtrier de Guayaquil.
Aujourd'hui, par exemple, nous avons arrêté 5 personnes et saisi 3 armes à feu, des pistolets. Et nous avons interpellé 4 personnes pour possession de drogue. Dans ce quartier, c'est le quotidien. Les trafiquants utilisent les grands axes routiers. La plupart du temps, ils se déplacent du nord vers le sud, là où se trouve le port de Guayaquil.
Le commissaire Victor Rodriguez sait que la bataille sera difficile à gagner. Les forces de l'ordre manquent de moyens financiers et la volonté politique fait défaut.
Les conditions de travail de la police de Durán sont très précaires. Notre poste de police est mal protégé, il n'y a pas de barrière, pas de caméra de surveillance, aucun équipement technologique, il n'y a rien, parce que l'État n'investit pas. C'est pour ça que nous travaillons dans des conditions aussi mauvaises.
Donc rien ne fonctionne ?
Absolument rien, c'est lamentable.
Dans les quartiers, les gangs de rue recrutent principalement des jeunes. Bella est inquiète pour ses 6 fils.
Il y a quelques jours, il est arrivé quelque chose à mon fils le plus jeune à l'école. Mais il n'a pas voulu me dire quoi. Il a été tabassé, très sévèrement. Je lui ai parlé et il a fini par me raconter. Il m'a dit, « Maman, à l'école, il y a des enfants qui vendent de la drogue. » Je lui ai dit, « Si tu croises ces enfants, il faut les éviter et te tenir à distance d'eux. Va ailleurs, va voir les enseignants ou cache-toi dans les toilettes. »
Les gangs recrutent des gamins de 12 ans, de 11 ans, même de 10 ans. Et quand les enfants refusent de rejoindre un gang, ils les tuent. Le lendemain, on les retrouve morts. Les enfants sont obligés de travailler pour les gangs.
Il y a plusieurs gangs. Il y a les loups, les lézards, les tigres. Le plus souvent, ils viennent te dire de rejoindre le gang des loups, par exemple. Et si tu refuses, ils menacent de tuer ta famille. Les instituteurs sont obligés de faire ce que les membres des gangs leur demandent, car eux aussi, ils ont peur. J'ai peur d'aller à l'école ou de sortir faire des courses. Le risque, c'est d'être touché par une balle perdue. Une balle perdue et tu es mort.
Au sein de la police, une unité spéciale a été créée pour éviter que les enfants ne tombent entre les griffes des gangs. Carlos López la dirige.
Les gangs essaient de recruter des écoliers parce qu'ils sont très faciles à manipuler. Ils leur promettent beaucoup de choses et notamment de l'argent. C'est pour ça qu'on essaie d'assurer la sécurité près des écoles et de transmettre aux enfants des messages comme celui de Paquito, notre mascotte, pour les encourager à poursuivre leur scolarité, à rester à l'écart des bandes criminelles et à ne pas se laisser embrigader.
Bonjour les enfants, comment allez-vous? Je m'appelle Paquito, je fais partie de la police nationale et je suis votre ami. Comme tous les jours, nous sommes ici pour vous offrir une protection policière. Nous avons des messages importants pour vous les enfants, car vous êtes l'avenir de notre pays. Et nous défendons des valeurs et des principes dont vous avez sans doute entendu parler chez vous, à la maison. Le respect, le sens des responsabilités, l'honneur, la ponctualité et la solidarité. Je vous dis à bientôt, moi je continue à patrouiller. Salut, salut, salut!
La vague de violence paralyse la vie de Guayaquil. Personne n'ose parler, ni même dénoncer un crime. le commissaire Victor Rodriguez repart en patrouille.
Actuellement, nous sommes à la recherche d'un groupe de gangsters à moto. Des gangsters qui auraient intimidé et menacé des commerçants. Nous allons vérifier ces accusations et si nous trouvons ces individus, eh bien nous les arrêterons.
Matin, midi et soir, des vols sont commis ici. Il y a tout le temps des motos qui passent. Il y a 3 semaines, ils ont déposé un corps par là-bas. Ils viennent toujours très tôt le matin.
Comme vous le voyez, il y a énormément de carences de l'État et de la part des forces de sécurité. La peur fait que les entreprises ferment. Elle contraint les gens à partir. La peur fait que nous perdons notre liberté et la paix dans laquelle nous vivons. Voilà ce que la peur fait de nous.
Les descentes de police nocturnes sont le plus souvent inutiles. De nombreux policiers sont à la solde des gangs et les informent des opérations coup de poing avant qu'elles n'aient lieu. Face à la violence et à l'insécurité, beaucoup de gens cherchent refuge dans la religion.
Mes chers amis, voyez la situation dans laquelle nous vivons. Dieu, parfois, autorise ce genre de choses pour que les gens se tournent à nouveau vers lui. Il écoutera leurs prières et il leur pardonnera leurs péchés. Il guérira son pays. C'est pour cela que nous te louons, Seigneur. Chaque être humain a besoin de toi, Seigneur. Chaque être humain te demande la paix.
C'est l'accomplissement de la parole divine. Car Jésus-Christ évoque très clairement la finitude de la paix du monde. La paix est passagère, elle ne dure pas. À un moment, elle est présente, l'instant d'après, elle n'est plus là. Mais Jésus-Christ ajoute, « Je vous offre ma paix, et ma paix n'est pas comme la paix du monde. La paix du Christ est éternelle. »
Bella et Ivan savent que les assassins du père, du frère et du neveu de Bella ne vivent qu'à quelques rues de chez eux, et qu'ils sont toujours en liberté. Il y a un an, Angel, leur fils aîné, a été arrêté et accusé de meurtre. Un meurtre qu'il nie avoir commis. Selon lui, un témoin a été menacé pour lui faire porter la responsabilité de ce crime. Angel encourt une peine de 33 ans de prison.
La vérité, c'est que des gens ont payé pour que je sois incarcéré et que je ne ressorte plus. Comme ils ont de l'argent et qu'ils sont membres d'un gang, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils tuent tous ceux qu'ils veulent tuer. Et personne n'ose jamais faire quoi que ce soit. Le jour du procès, le juge me condamnera à tort, alors qu'il y a des preuves de mon innocence.
Avec de l'argent, on peut tout acheter, même le diable. C'est comme ça. Nous n'avons pas d'argent, mais nous pouvons nous défendre avec l'aide de la presse. Nous allons dénoncer la corruption de tous ces gens. Tu finiras par être libéré. Et ce jour-là, je te demanderai de quitter le pays. Je suis prêt à vendre notre maison pour t'aider. Et je le ferai, mon fils.
Les groupes criminels contrôlent depuis longtemps les prisons équatoriennes. Les chefs de gang dirigent leurs affaires depuis leurs cellules. Les détenus doivent leur payer une protection, faute de quoi ils courent le risque d'être tués. Ces 2 dernières années, 600 détenus sont morts lors de plusieurs massacres qui ont eu lieu dans les centres pénitentiaires.
Toutes les prisons sont contrôlées par les chefs mafieux et par les cartels. Ce sont eux qui font la loi, et tout le monde est complice. Les gardiens de prison, et soyons honnêtes, même la police. Les policiers et les gardiens de prison sont aux ordres de la mafia. Il y a régulièrement des massacres dans les prisons. Les membres des différents gangs s'entretuent. En prison, les gangs contrôlent tout. Souvent, des détenus sont pendus. Ils les étouffent pour qu'il n'y ait pas de preuves.
Ivan et Bella remuent ciel et terre pour obtenir la libération de leur fils. Une démarche risquée et souvent sans espoir. Les juges et les avocats font l'objet de menaces et les pots de vin sont une pratique courante. Guayaquil et les villes côtières du pays sont sclérosées par la peur. La plupart des habitants ont perdu tout espoir d'un avenir meilleur. Conséquence, de plus en plus de gens veulent quitter le pays. En 2023, le nombre d'Équatoriens qui tentent d'entrer illégalement aux États-Unis a augmenté de 300%. Toute la population semble avoir envie d'émigrer.
Où que l'on soit, c'est partout pareil. Il n'y a pas de solution. Même quand on change de village, on retrouve les mêmes conditions. Avec les mêmes cartels, la même violence, les mêmes gangs. Il n'y a pas d'avenir ici. Comment tout ça va se terminer? Ça s'arrêtera quand le monde s'effondrera. Parce que le gouvernement n'a plus rien à dire dans ce pays. Il n'est plus en mesure de changer la situation. Ici, la mafia est plus forte que l'État. Je te le dis comme je le pense. Quand tu es à la campagne, au milieu de la nature, c'est comme si tu laissais toutes les souffrances derrière toi. Tu es libre, au frais, tranquille. Tu peux penser à d'autres choses, à la montagne, aux chevaux.
Mais dès que tu rentres chez toi,
tous les problèmes et toutes les angoisses reviennent. C'est comme ça.
L'Équateur vient d'élire un nouveau président dans l'espoir qu'il parviendra à stopper la montée de la violence. Mais comme tous les habitants du pays, ce nouveau chef d'État est face à une tâche quasiment insurmontable. Le pays est confronté à un cercle vicieux fait de corruption, de peur et d'impunité. Le crime organisé a infiltré les institutions à tous les niveaux. L'Équateur est en passe de devenir un narco-État. Ivan et Bella espèrent toujours qu'ils pourront prouver l'innocence de leur fils Angel.